bienvenue dans Partie Fine. Partie Fine spéciale pop, sous le signe de la pop on va dire, avec un invité qu'on apprécie tout particulièrement ici, Kit Francescoli, bonjour.
Bonjour.
Enfin, un des membres.
Un des membres.
Ouais, voilà.
Le membre.
Le membre. Monsieur Clouseau, pour vous servir, on va faire un petit parcours musical comme d'habitude. On va écouter pas mal de pop, de la musique de film, de tout, du cha-cha-cha. Enfin bon, ça va être complètement décalé comme d'habitude. Et puis on va apprendre un peu à découvrir notre invité, Mathieu, du groupe Kit Francescoli, qui a pas mal d'actu ce temps-ci. On parle beaucoup de lui à Marseille et ailleurs, dans les médias aussi. Donc voilà, on va commencer avec une première sélection de Monsieur Kit Francescoli, ou Monsieur Mathieu Aucine.
Kit Francescoli, tu peux dire, ça passe.
Kit Francescoli, ouais. Ça passe. Le Kid, hein, moi j'aime
voilà,
bien le Kid.
Le Kid.
Première sélection, Carole King, Crying in the Rain. Pourquoi ça? Moi, ça m'a vraiment touché ce morceau parce que je connais bien l'artiste. Et puis cette période un peu, pour toi qui aime aussi Burt Bacharach,
ouais.
Et l'âge d'or un peu de la variété américaine des années 50-60, pourquoi ce choix-là?
D'abord parce que c'est un morceau au niveau des paroles qui incarne parfaitement le chagrin amoureux, ce qui est un thème qui me touche particulièrement
ouais.
Surtout en ce moment,
ouais.
Et en plus voilà, au niveau mélodique, c'est la simplicité, la limpidité pop absolue quoi.
Certainement Carole King avait dû croiser Dionne Warwick et Burt Bacharach dans le Brill ouais. Building de New York voilà. À l'époque.
Ils ont construit la pop.
Ouais, c'est vrai, c'est la base de la pop d'aujourd'hui. Et malheureusement en France, Burt Bacharach et tous ces artistes, c'est pas forcément des noms qui parlent, mais c'est des noms qui en tout cas ont fait danser, ont fait rêver les gens même en France.
Parce et ont beaucoup influencé beaucoup d'artistes qu'on aime tous aujourd'hui.
Ah oui, complètement. On écoute Carole King.
Twisted mind to save from self-destruction. It's the rubber room where a man can run into the wall till his strength makes him fall and lie still.
and wait for help in the rubber room. From his blurry vision of doom, a cycle in the rubber room. The man in the room right next to mine screams a woman's name, hits the wall in vain. He's in the rubber room. I hear footsteps pounding on the floor. God, I hope they don't stop at my door. I'm in the rubber room. Now they've come to get me, but they find I'm a-screaming pretty words, trying to make them rhyme. I'm in the rubber room. I'm in the rubber room.
Un ovni musical comme on aime les entendre, à l'instant Porter Wagoner avec The Rubber Room, encore une sélection donc de notre ami Mathieu Ossine de Kid Francis Collier. Pourquoi c'est un super morceau. Enfin, moi, j'ai vraiment particulièrement j'ai découvert au travers de cette fameuse compilation. Que...
Ouais, bah c'est ça. C'est un morceau qui est extrait de cette compilation là, de qui s'appelle The Trip.
The Trip, ouais.
De Jarvis Cocker et Steve McKay, ouais, qui était le bassiste de Pulp. Et c'est une compilation qui contient que des titres comme ça que j'ai l'impression que personne connaît et qui sont tous plus excellents les uns que les
donc
autres.
Donc en plus de nous conseiller cet artiste Porter Wagoner dont on connaît pas grand chose d'ailleurs, on pourra pas trop vous renseigner aujourd'hui dans Partifine, mais la compilation qui je crois que c'est composée de deux CD je crois.
Il y a deux disques, le deuxième c'est des reprises, c'est un peu moins réussi, mais le premier c'est des titres originaux avec Psychic TV, avec d'autres artistes qui sont voilà, c'est vraiment parfait quoi.
Et on est proche de l'univers de Pulp ou pas du tout?
Non, bah tu vois après parce qu'il y a des crooners, il y a ce genre de comme Porter Wagoner, tu vois, mais c'est pas non plus c'est pas plus Pulp que ça quoi. Et ça montre l'étendue de la culture musicale de
Jarvis et de Steve McKay. Pulp, ça te dit quelque chose? Enfin, ça te parle ou c'est quelque chose que t'as écouté dans les années 90, début 2000?
Ouais, en fait, quand tu écoutais de la pop en 90, 95, comment passer à côté quoi? Tu vois, on était tous allés les voir à l'Espace Julien quand ils étaient venus quoi.
Ouais.
Moi, c'était plus Supergrass et Oasis à l'époque, mais voilà, comme Blur, Pulp, tout ça, j'ai tout écouté quoi. J'ai tout dévoré à cette époque-là.
On a la nostalgie de tout ça aujourd'hui quand on est en 2010 et qu'on a... À l'époque, tu jouais peut-être pas déjà
Je jouais de la musique, oui, mais pas... Bon, j'avais pas encore monté Kid Francescoli. Ouais. Mais en fait, c'est bizarre la nostalgie parce que c'est... Moi, tu vois, par exemple, j'aimais moins Pulp que Oasis. J'étais vraiment un fan de Oasis, mais maintenant... Quand
moi,
je...
c'était l'inverse.
Ouais. C'est marrant. Maintenant, quand je retombe sur certains morceaux, je me dis en fait qu'un morceau comme Common People de Pulp, c'est peut-être un des seuls de cette époque-là qui est vraiment, ou certains hits de Blur, tu vois.
Oui.
C'est un des seuls qui reste comme un morceau majeur, quoi, tu vois, que tu peux écouter 10 ans après.
Qui a pas trop vieilli finalement.
Ouais.
Ouais. C'est ça que tu veux dire.
Ouais,
Et au niveau mélodie.
Qui est toujours moderne, qui est toujours. À chaque fois que tu l'écoutes, tu te dis quand même que c'est quelque chose d'un coup de maître, quoi, tu vois.
C'est vrai. Et Oasis, qu'est-ce qui reste?
Oasis, ouais, il y a certains morceaux qui restent, mais.
Après le troisième album, est-ce que après le troisième album, t'as continué à...
Non, pas du tout, j'ai arrêté complet.
Voilà.
Quoi. J'ai arrêté mes complets. Et du coup, après, ça reste plus de la nostalgie. Il y a Live Forever ou Whatever qui sont toujours des bons morceaux, tu vois, mais que j'écoute pas. Enfin, je sais que ça m'arrive d'écouter Common People et plus vraiment Live Forever. Quoi. Peut-être parce que je les ai trop écoutés aussi à l'époque.
C'est ça, on a un peu abusé. Et le fait que, par exemple, Blur se soit reformé l'année dernière pour une tournée, est-ce que ça t'a donné envie d'aller les revoir ou au contraire, tu te dis ça vient pas d'un quelque chose de sincère?
Non, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je les avais vus à Benicassim en 2003, je crois.
Et j'y étais aussi.
Et c'était vraiment le feu, quoi. Et c'était à l'époque où c'était pas vraiment la reformation. Ils en étaient à leur dernier album. Et ça m'avait suffi, quoi. Tu vois, je me suis dit que c'était le concert qu'il fallait voir. Et ils avaient joué tous les hits, du coup, parce qu'ils étaient en fin de carrière. Mais c'est pas, j'étais pas non plus un fan au point d'aller voir la reformation. Je sais qu'il y a la reformation de Pavement en fait, j'espère qu'ils vont passer ici, mais bon, c'est pareil, tu vois, on les avait vus aussi à l'Espace Julien et je pense que ça suffit, quoi, tu vois, c'est pas...
Ouais.
En fait, je pense qu'il vaut mieux aller voir les groupes que tu as pas vus, tu vois, pour les reformations. J'ai raté la reformation de My Bloody Valentine,
et malheureusement. Oui, moi, c'est pareil.
Mais bon, voilà.
Parce qu'il paraît c'était un peu insupportable.
Au niveau du son.
Bon, ils faisaient ça déjà à l'époque, mais bon,
ouais,
c'était
là,
un peu difficile.
La marque de fabrique, apparemment.
Je pense que plus on vieillit, on a vécu, nous, l'époque Mogwai aussi.
Ouais.
On aimait tous ces sons un peu noisy, mais là, apparemment, My Bloody Valentine, c'était particulièrement un peu. Enfin, c'était assez.
Ouais, je crois qu'il y a eu des problèmes à Bercy. Ils ont dû arrêter le concert et tout.
On va continuer à parler de pop, mais avant, on va revenir encore en arrière avec un artiste, je sais pas si tu apprécies particulièrement, Michel Legrand.
Oui.
Voilà, bon, il est passé par plein de périodes aussi, lui aussi, dans une partie pop. Et là, il a repris un titre, en fait, ce qui était sorti à l'époque pour un film qui s'appelait The Messenger. Et il avait réorchestré, en fait, ce titre qui n'était pas comme ça à l'origine. Je vous propose d'écouter donc ce morceau réorchestré par Michel Legrand, The Messenger.
Thank you.
Brunetta Baluba Shake, tiré du film complètement farfelu Arriva la Bomba. On est dans les années 60, juste avant Michel Legrand, donc The Messenger. Je crois que ça t'a particulièrement touché, Mathieu, la manière d'orchestrer.
Les arrangements, la basse et tout, c'est toute une époque et c'est le son qu'on cherche tous à avoir. Maintenant,
ouais.
on n'y arrive plus.
les cordes, bon, quand on aime la pop, forcément c'est un incontournable, mais est-ce que tu trouves pas que ça manque un peu dans les productions actuelles?
Mais parce que ça, les vraies cordes, en fait, tu vois, c'est maintenant on va de plus en plus vers le home studio et le, tu vois, alors soit tu as les fausses cordes qui s'entendent et soit ça vaut super cher, tu vois, d'enregistrer comme on disait que là, Michel Legrand, c'était avec le London Symphonic Orchestra, tu vois.
Il y a une histoire de moyens, mais aussi je sais qu'il y a pas mal d'artistes aussi français, notamment, qui ont enregistré des cordes dans les pays de l'Est.
Parce que Tellier qu'il avait fait pour politique.
Tout à fait. Et c'est pas, parce qu'il faut quand même le soutien, d'après toi, de grosses maisons de disques, quand même, parce que même si c'est moins cher, il y a quand même un
coût. C'est pas pour les artistes, en tout cas, moi je parle pour ma position, c'est intouchable, quoi. Je me contente du Mellotron.
Alors voilà, tes instruments de prédilection, c'est quoi?
Bah en fait, il y a le traditionnel guitare basse batterie, quoi. Après le sampler pour les rythmes et les beats qui peuvent être électro samplés ou alors jouer avec une vraie batterie. Après les petits jouets là, que sont le glockenspiel et le melodica, le stylophone, en fait c'est le ukulélé, tu vois, c'est des instruments qui sont faciles à jouer et qui servent toujours, tu vois. Les synthétiseurs et le plus possible de vintage analogique, et bon, ça c'est compliqué, c'est très cher aussi, mais voilà, le Mellotron, tu vois, tout ce genre de le MS-10, le Moog et tout ça, c'est des trucs qui sonnent super bien.
Finalement, ta musique, t'as un peu un pied dans la pop contemporaine et puis un pied dans le vintage et pop, la rétro-pop, quoi.
C'est ça en fait que j'aime bien faire, c'est surtout tu vois, de pas faire un morceau qui essaie de sonner ancien avec que des sons anciens sur tout le morceau, et pas faire non plus un morceau qu'électro. Je trouve que c'est super bien de mélanger et du coup ça, je sais pas, ça me donne une espèce de confort en fait quand j'enregistre, c'est de te dire je vais mettre un rythme électro et au lieu de mettre un synthé par dessus, je vais jouer du mellotron ou du ukulélé ou un instrument vraiment acoustique en fait, tu vois. J'essaie de faire à chaque fois une espèce de contrepoids entre les instruments.
Et qu'est-ce que tu penses par exemple d'artistes qui ne sont plus aujourd'hui comme François de Roubaix, qui avait pu commencer à travailler comme dans un home studio? C'était un peu un des premiers français à pouvoir travailler comme ça, à triturer ses bandes, à travailler sur des rythmités électroniques avec des séquences, avec les instruments et les outils de l'époque, mais à travailler seul comme ça, s'enfermer, sans aucun autre musicien. Qu'est-ce que toi tu arrives à comprendre que déjà à l'époque on ait envie comme ça de travailler ce son?
En fait c'est un truc, quand j'ai découvert la façon d'enregistrer de Dorobé, moi ça m'a vraiment parlé, parce que je trouve que c'est un confort, c'est pour ça que je te dis que j'utilise beaucoup les instruments comme le ukulélé ou le glockenspiel, c'est parce que tu te retrouves tout seul et tu empiles les couches et voilà quoi, tu vois, c'est super confortable d'avoir tout à disposition. et sans avoir personne. Ah bah après, c'est, après les collaborations, c'est très bien aussi, quoi. Mm-hmm. Mais après, de Roubaix, il a tellement évolué que lui, ce qui est magique avec lui, c'est que dans le même album, même des fois dans le même morceau, il y a un couplet fait avec un petit instrument qu'il a dû acheter au fin fond de l'Afrique, tu vois. Et de suite après, là, dans la minute qui suit, il y a un orchestre symphonique, tu vois.
C'est vrai.
Mais non, moi j'aime bien ce confort là de cocon, là, d'essayer de, tu vois, de s'entourer de tous tes jouets, tes instruments et de composer avec ça.
Il y a des moments dans la journée ou dans la nuit où tu préfères composer ou travailler ou jouer?
Bah, le mieux c'est la nuit de loin, hein, parce que c'est en fait la journée, je pense que tu as une espèce de, tu vois, de détachement par rapport à la musique qui fait que tu es un peu ouvert aux mélodies qui peuvent te venir, tu vois, donc ça c'est bien. Mais après, pour travailler vraiment, pour passer des heures derrière ton ordinateur ou tes instruments, c'est le mieux, c'est la nuit, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de personnes autour de toi et tu as été socialement, on va dire que tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu vois. Tu as vraiment plus que ça, quoi. Une fois que tu as mangé, c'est bon.
Kid Francesco Lee, It's Happening Again, EP1, c'est sorti il y a pas très longtemps finalement.
Non, 2-3 mois.
2-3 mois. C'est dispo où, quand
Bah, c'est dispo via le label Microphone Recordings qu'on a monté avec Tiger Mountain. Mm-hmm. Et c'est dispo donc en téléchargement. Et le disque que tu tiens dans tes mains est disponible soit par commande sur le MySpace du groupe et le MySpace du label, ou sinon au concert.
Très bien.
Voilà, mais pas de distributeur physique.
Il est temps d'écouter.
On fait ça à la main.
Ah oui, d'accord, voilà. Carrément. C'est artisanal.
Exactement.
Ouais. C'est bien. On va justement commencer par écouter un morceau et ensuite on va enchaîner avec un autre, on en parlera après. Donc, Kid Francesco Lee avec un titre Classico Belmondo que j'aime particulièrement.
Thank you.
Classico Belmondo et à l'instant le fameux Watou Watou signé Hubert Ballet. Je sais pas comment on dit, prononce Hubert
ouais,
Ballet.
Hubert Ballet, ouais.
Ballet, ouais. Alors ça c'est bon, ça. Ça prend quand même,
prend,
quand,
ouais.
quand on s'y attend pas, surtout.
quand on se prend à la gueule et quand on redécouvre ça, ça fait
toujours bizarre. Je sais pas si les auditeurs ont ressenti la même chose, mais c'est vrai que pour les gens qui ont la trentaine comme nous, ou même plus vieux, hein, puisque c'est un dessin animé qui a été rediffusé plusieurs fois à la télé à l'époque, ça parle, quoi. C'est fou, il y a des mélodies comme ça qui remontent et qui font ressurgir plein de souvenirs, plein de sensations de l'enfance, l'adolescence ou autre. Et c'est ce que t'as vécu finalement quand tu l'as réécouté.
Ouais, bah en fait j'avais ce souvenir en fait, mais tu sais c'est un peu vague les souvenirs de dessins animés. Tu mélanges un peu les personnages, les héros, les musiques et tout, tu vois. Et je savais qu'il y avait un truc avec ces oiseaux là un peu bizarre, tu vois, et les oies et tout ça. Et quand je suis retombé sur cette BO, ça m'a vraiment... ça m'a ramené directement à voilà, mes 10 ans, tu vois, dans des souvenirs super intimes et profonds. Et en plus, voilà, la musique est ultra mélancolique et ça a été vraiment une source d'inspiration sans fin, quoi, tu vois. Ça a déclenché un truc.
Ah, du coup, on le ressent bien sur ce fameux morceau classico Belmondo.
Ouais, bah, c'est un hommage après, tu vois. C'est la structure, au moins. Bon, après, la mélodie, je sais pas, mais au niveau de la structure, c'est un hommage calqué sur ce thème-là, quoi. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est de faire un morceau instrumental de. Parce que Watou Watou, finalement, il fait, je crois, 3 minutes, même pas, tu vois, de 50. Et quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'être passé par, tu vois,
ah ouais, on est dans
d'avoir
un...
voyagé,
ouais,
d'être revenu, d'être reparti, tu vois.
C'est vrai.
Ça que j'aimais bien, en fait.
C'est vrai. Et alors, donc, ton actu, puisqu'on avait commencé à en parler, donc ce morceau, je précise quand même, Classico Belmondo, n'est pas disponible dans le EP1, mais dans une prochaine sortie.
Ouais, une prochaine sortie, un prochain EP ou l'album, mais pour l'instant, il est inédit, en tout cas.
Et on peut l'entendre uniquement sur scène.
Sur scène, voilà, au concert.
Venir vous voir sur scène, les prochains concerts.
Les prochains concerts, c'est des concerts solo à Paris, le 14 au Truskell et le 18. Ou le 17 je crois au Disquaire. Bon, tous les concerts de toute façon sur la page MySpace. Il y a les Baumettes se font la belle au Doc des Suds le 23 avril je crois.
D'accord.
Et sans doute un festival ça sera en groupe là par contre cet été à Marseille, le Sunset Music Festival qui sera le 17 juin.
D'accord, très bien. La question du technicien, parce que notre technicien aujourd'hui c'est Gilles. Il demande, Gilles, si tu as déjà eu des sollicitations pour composer des musiques de films.
Eh bien non, Gilles, je n'ai pas été sollicité. Mais
si je peux me permettre, sur des activités parallèles, t'as un peu un pied quand même dans le pas le cinéma, mais dans l'image.
Dans l'image, avec les. Je suis entouré de beaucoup de potes réalisateurs, que ce soit de courts métrages ou de clips.
Mais oui.
Mais voilà, je pense que ça se fera un jour ou l'autre parce que c'est vraiment un truc qui me.
On te sent très inspiré quand on aborde les musiques de films.
Ouais, bah ouais, c'est ça vient. En fait, tu vois, j'ai l'impression des fois que rajouter des paroles, c'est vraiment pour caler coller au format pop, quoi, tu vois, mais parce que je sais que les thèmes, en fait, tu vois, comme dans Classico Belmondo, c'est des trucs comme ça qui me viennent super facilement. Et voilà, moi, c'est un truc auquel j'aspire parce que tous les. Déjà, c'est une grosse influence, tous les compositeurs de musique de film, Ennio Morricone, Badalamenti, John Barry.
On a rendu un hommage récemment à Michel Magne à Marseille. Ouais. Tu connais un peu son travail
Pas trop, pas trop, non. J'étais pas là, je suis désolé. Monsieur Clouseau.
Vous n'avez pas à vous excuser, mon cher Mathieu.
D'accord. Mais ouais, voilà, donc ça, donc les musiques de films, c'est une grosse influence. Et je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui m'ont influencé, des groupes de musique pop, je veux dire, qui ont composé aussi des musiques de films. Je pense forcément à R avec Virgin Suicide.
Ouais.
Mais il y a Mello aussi, il y en a plein d'autres, en fait. Et je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire.
Les artistes ont tous des influences finalement, puisque R, on a aussi, on parlait de Roubaix, de Serge Gainsbourg, ils ont même pour Virgin Suicide, c'est clairement aussi Pink Floyd.
Forcément, ouais.
Il y a beaucoup de choses, et toi
C'est ça, parce que moi je suis influencé par R. c'est ce qu'on m'a dit au début, tu vois, c'est presque un reproche en te disant, ouais, ce que tu fais, ça sonne un peu trop R. Mais R, quand ils ont commencé, tout le monde leur a dit que ça sonnait Gainsbourg et Pink Floyd, quoi,
tu vois,
c'est une évidence, quoi. Donc,
c'est juste que toi t'arrives après, que c'est pas les mêmes générations.
Ouais,
donc,
voilà.
Mais
bon, après voilà, tu es influencé par R parce que tu découvres R, mais comme on disait tout à l'heure, tu découvres aussi après que derrière il y a Gainsbourg et Derouet, et après tu es influencé par eux aussi, quoi.
Tout à fait. Si on traduit les paroles de tes chansons,
oui.
Qu'est-ce qui sort de tout ça?
il sort que c'est des textes en fait qui sont le plus possible, qui collent le plus possible à ce que je vis en fait. J'arrive vraiment pas à faire des textes, tu vois, des trucs à raconter des histoires, ouais. À imaginer
c'est
des
toi.
Personnages.
Mmh. C'est du vécu là.
J'arrive pas non plus à faire de textes engagés politiquement, tu vois. Mmh. Bah d'ailleurs si tu regardes bien, quasiment tous les morceaux commencent par aïe ou maï ou tu vois, c'est du coup voilà, c'est des choses que je vis et que je ressens et ouais. Voilà, ça fait une espèce de biographie, d'autobiographie.
Tu coécris avec tes compères
oui,
scène,
ou... avec bah, Laetitia a participé à certains titres chantés en italien. Mm-hmm. Et David qui joue du clavier et qui est responsable de bon nombre d'arrangements. Mm-hmm. Me file toujours un petit coup de main pour tu vois, une fin de couplet ou une rime qui accroche un peu, quoi, tu vois, c'est...
D'accord. Si on n'est pas... Si les morceaux qu'il y a sur ton EP, It's Happening Again, ne suffisent pas, si on est accro de Kitran Sescoli, on peut aussi se procurer ton premier album.
Le premier album qui s'appelle... qui est un album éponyme, donc, Kitran Sescoli, qui était sorti sur les Chroniques Sonores ouais. Il y a 3 ans, je crois, mm-hmm. de ça. Mm-hmm. Et voilà, toujours pareil, hein, via le MySpace et le mail pour les commandes.
Très bien. On va continuer cette petite balade musicale avec la reprise reggae d'un classique de Henry Mancini, puisqu'on parlait de musique de film. Je ne sais pas si tu connais ce morceau Moon River.
Oui, oui, voilà. Très bien.
On en a entendu des covers et des covers, mais là, celle-là, elle est particulièrement réussie. Et ça date de 1971 et c'est le groupe Greyhound.
Bye.
La 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 la, c'est un extrait de la compilation de la musique de film, encore une, de Deep Throat, un film X américain des années 70.
Gorge profonde.
Ouais, exactement, voilà. je vois que tu es un fin connaisseur, hein, de film oui, X. Oui. C'est un peu le ton aussi, hein, party film, on a l'habitude. On s'est un peu calmé depuis quelques temps, mais on en a beaucoup passé, surtout à l'époque où on a sorti cette compilation, ouais. Musique de film érotique. Mais voilà, donc Deep Throat avec un morceau un peu léger, donc la 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 la, chanteuse inconnu bien sûr, et juste avant le Moon River de Greyhound que tu as apprécié, je crois.
Oui, bah parce que j'apprécie aussi l'original.
Et oui, c'est un film culte, hein, pour nous, pour les ouais. Diamants sur canapé, Breakfast at Tiffany's, ouais. Pour ceux qui connaissent le titre original. Ouais. Un film, bon, enfin, tout est beau.
Tout est beau. Ouais.
L'esthétique, le jeu d'acteur.
Et Audrey Hepburn qui chante au Moon River.
Voilà, voilà. Sur parfait. Le bord de la fenêtre, c'est magnifique. C'est bien, on a vraiment quelqu'un en face de nous, là, Mathieu Hossin, qui a une culture ciné, pop, musique, putain, pourtant, de film, tout. Qui
il,
est
m'en
quand
manque,
même...
il m'en manque tellement.
Et oui, il en manquera toujours, mais c'est plaisant quand même d'avoir quelqu'un comme ça qui parle en antenne de Radio Grenouille dans Partie Fine. L'actu, c'est aussi, y a plein de choses, on a parlé du disque, on a parlé des concerts, mais il y a aussi, tu pourrais nous présenter rapidement les membres du groupe aussi,
oui,
et
alors,
puis leur projet annexe.
Il y a Laetitia qui chante, il y a Olivier qui joue de la basse et qui officie sous le nom de Johnny Hawaii, son projet folk déglingué. Les deux autres, donc il y a David qui joue des claviers et qui a son projet qui s'appelle The Performers, qui a préparé, fini et enregistré un superbe deuxième album.
Quel style?
Ben en fait il avait fait un premier album super atmosphérique et très lynchien, tu vois.
Ah oui.
Et en fait il a continué en faisant évoluer ça vers un mélange entre ça et des morceaux pop, tu vois, et du coup ça donne un truc super original, et en plus il a, au niveau de l'inspiration, c'est vraiment très bien, quoi. Donc il y a aussi deux autres membres du groupe qui sont Simon et Nico, qui jouent des claviers, de la batterie, et qui officient dans Nasser, en fait le groupe, la révélation ouais. Électro,
on entend beaucoup vous parler,
marseillaise,
c'est incroyable.
Ouais, ils sont sur la vague du succès, absolument.
C'était Tsugi, après c'est les In Rock, enfin bon c'est.
Ouais, ils ont fait la tournée In Rock Indie Club.
Ça y est, c'est fini là.
Ouais, je crois que c'était il y a deux semaines là.
Mais eux, justement, ça fait partie de tes connexions, des gens qui travaillent dans le cinéma, ils ont.
Aussi, oui, parce qu'ils officient aussi en tant qu'avec Romain, en tant que double zéro, c'est des réalisateurs.
Ils arrivent à trouver le temps de tourner comme ça et de.
Bah ouais, j'ai l'impression qu'en fait ils font une espèce de turnover, tu vois, un peu genre 3 mois de Nasser, un mois de. Ça doit être ça, je sais pas comment
ils font. Parce que vous, c'est pareil, dans Kid Francescoli, quand il y a une date, chacun a ses occupations, ses activités. C'est facile d'arriver à se retrouver.
Ouais, c'est pour ça qu'en fait moi j'ai mis au point la formule solo, parce que c'est le même principe avec au Tiger Mountain que j'accompagne en fait maintenant sur scène. On est en duo, et voilà, là par exemple on a joué samedi dernier à Avignon en duo parce qu'on était libres tous les deux. La veille moi j'ai joué en groupe avec Kit Francescoli à la soirée à la Nuit Zébrée Radio Nova. Mais après voilà, je pourrais pas être là avec lui pour certaines dates parce que je serai en solo, ou quand tout le monde est là on les fait à 5, quand je suis à Paris par exemple ça coûte trop cher et pas tout le monde est là pour venir, tu vois, pendant une semaine à Paris avec moi. Donc je vais y aller tout seul.
Bon, bien.
L'important c'est que le nom soit toujours là, tu vois. C'est de pas refuser de date en fait. Voilà.
Ouais, ça c'est. Voilà. Parce que le but c'est de jouer.
Ouais, le plus possible.
C'est ça en fait la vie d'un groupe aussi, faire vivre sa
musique.
Surtout
maintenant, quoi. Surtout maintenant, parce que là maintenant, tu vois, les disques et tout, on peut s'asseoir dessus, surtout à notre niveau, quoi. Tu vois, les ventes de disques, c'est quand tu es Coldplay ou Cheap, tu continues à vendre des disques, des albums et à en vivre, quoi. Tu vois.
Quand on voit quand on voit comme des groupes comme Phoenix qui ont pas vendu énormément en France et qui commencent à enfin à vendre aux États-Unis, à être même récompensé par un Grammy Award.
C'est Phoenix, tu vois.
C'est Phoenix qui ont été signés sur un beau label français qui était Source à l'époque. Maintenant, c'est Virgin EMI, enfin tout ce que vous voulez, mais ils ont quand même cette chance de signer là, mais ils ont quand même aussi, à leur niveau, galéré
pour vendre des disques.
Alors qu'ils chantent en anglais comme toi. Ouais. Et que, bon, là.
Donc nous, pour l'instant, le seul moyen de se faire le plus connaître et de gagner de l'argent, c'est de faire des concerts.
Oui.
Voilà.
Et c'est...
C'est pour ça qu'il faut refuser aucune date.
Et il faut refuser aucune date, mais alors je sais qu'aussi vous avez, bon, vous avez des dates, vous les trouvez en direct, mais vous avez aussi peut-être un tourneur, quelqu'un qui vous supporte ou pas on officiellement.
A... Ben officiellement non, c'est ça le truc, c'est qu'on a plusieurs, on a Adit Up, que tu connais, ouais, de Paris, mais voilà, c'est pas des, c'est pas un tourneur, c'est pas notre tourneur officiel qui pourra nous trouver 40 dates dans l'année, quoi. Ouais. C'est des coups, des one shot.
Alors comment ça se passe avec les tourneurs? Il faut qu'il y ait un vrai coup de cœur et ils vous prennent sous leurs ailes et ils vous trouvent des dates.
Ouais,
ou...
et après il faut lui donner l'exclusivité parce que, ouais, sinon tu vois les tourneurs s'entrechoquent et c'est pas bon parce qu'ils proposent le même artiste de façon différente aux mêmes salles et c'est pas, ça crée une espèce de confusion qui est pas bonne du tout pour l'artiste. Mais sinon voilà, il faut que oui bah que le tourneur déjà t'es déjà vu en concert et mais souvent c'est pour ça qu'en fait ça, là où c'est un peu le problème du chien qui se mord la queue, tu vois, c'est que il te faut un label pour avoir un distributeur, le distributeur il veut te distribuer si tu as un tourneur, mais le tourneur il veut te faire tourner si tu as un label, tu vois. Mmh. C'est toujours donc il faut quand même sortir les trucs et essayer de faire le plus possible au moins à notre niveau pour
pas évident de faire son trou quand même, hein.
Non, c'est dur, mais après voilà, quand tu as des bons retours, tu vois, là on a sorti ce maxi, on a
très bonne presse,
un titre, voilà, un super accueil, on a le morceau One Moment qui est rentré en playlist sur Radio Nova et sur Radio Grenouille, et tu vois c'est enfin c'est pas, tu vois, ça te pousse à continuer, quoi, tu vois,
la presse aussi, hein.
Oui, on a eu un bon papier dans Tsugi, les blogs, en fait, les blogs ND sur le
news,
web, Pop
ça.
News, Not for Tourist, et je sais plus d'autres en fait qui sont. Enfin, on a eu un super bon accueil, tu vois, donc c'est ça fait pas perdre le.
Et à part ça, les coups de cœur du moment.
Alors les coups de cœur du moment.
Pas que musique d'ailleurs, hein. Ça peut être film, ça peut être.
Bah en fait les films, on en parlait tout à l'heure, mais là je me rends compte que ça doit faire à peu près. Bon, je continue à en regarder, hein, tu vois, mais ça fait bien un an ou deux que je me drogue aux séries.
Ouais.
Tu vois. Et les dernières, ça a été Curb Your Enthusiasm.
Ah bon.
Mad Men.
Ah oui. Très 60s.
Ah ouais, Mad Men, c'est vraiment super bien, quoi. C'est,
dans le milieu de la pub,
c'est ouais, ça. Dans le milieu de la pub, mais en fait, moi j'en suis qu'à la deuxième saison, mais tu t'aperçois que c'est dans le milieu de rien du tout. C'est la vie, quoi, tu vois. Mm-hmm. C'est les problèmes dans les 60s d'adultère, d'avortement, de trahison au boulot, de course au pouvoir et tout, tu vois. C'est super intéressant parce qu'il se passe vraiment rien, en fait, tu vois. C'est juste des dialogues et la relation entre les personnages. Mm-hmm. Et Born to Death avec Jason Schwartzman,
ouais,
qui est dans un univers super pop new-yorkais, tu vois, artistique, c'est assez drôle, un peu loufoque, un peu burlesque, quoi, tu vois, qui est super super attachant.
Donc tu te plonges autant de passion dans un bon film au ciné qu'à dans une série, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus les séries, je sais que moi ça m'est arrivé, ça m'a surtout fait ça avec une série qui s'appelle The Wire, qui est vraiment, je pense, le meilleur truc que j'ai vu, quoi. Et c'est, tu vois, ça t'arrive de te dire, bon, maintenant je vais quand même pas me regarder un film de 3 heures, alors tu te mets un film de 1h20, quoi, tu vois. Ouais. Et au lieu de faire ça, tu te retrouves à te regarder 6 épisodes de 50 minutes d'affilée, tu vois. Ça fait 5 heures que tu es devant l'écran, tu vois. Tu aurais pas pu faire ça avec un film. Et il y a surtout ce truc de pouvoir développer les personnages sur X années qui est vraiment surpuissant.
Et coup de cœur musique, alors, ces temps-ci.
Bah, coup de cœur musique, les trucs un peu. Récent, c'est Atlas Sound ou Neo Indian et l'album de Julian Casablancas, qui malgré sa production plus que douteuse pour beaucoup de personnes, en fait, en fait c'est un mec que je
alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le
chanteur des Strokes,
voilà, ouais.
Et c'est surtout que voilà, je trouve qu'il est j'adore ce mec, quoi. Sa voix et ses mélodies et la façon, le détachement qu'il semble donner un peu par rapport à tout ça, en fait, je le trouve cool.
L'attitude sur scène, ça a une importance.
Ouais, aussi, mais après, je sais pas vraiment s'il fait esprit d'avoir une tête de con, en fait.
C'est ça.
Non,
ouais.
je pense qu'il doit être un peu, peut-être un peu lassé ou pas vraiment. Apparemment, il a des gros problèmes d'alcool, donc ça pourrait expliquer certaines choses.
Mais il est hyper jeune. Hein.
Ouais, il est jeune et voilà, il est. Non, mais il est très talentueux et voilà, j'aime beaucoup son parcours et et toutes ses collaborations et son personnage en tout cas et sa voix surtout.
As-tu récemment redécouvert des pépites du passé?
Bah oui, bah en fait, on parlait tout à l'heure de Moon River.
Ouais.
Le Moonchild de King Crimson qui est sur la BO de Buffalo 66, film que j'ai dû voir pour la 10e fois cette année. Ouais. Non, mais après, tu vois, il y a des morceaux, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais j'étais jamais allé jusqu'à vraiment écouter ce morceau-là. J'ai découvert aussi honteusement, à plus de 30 ans passés, Nina Simone.
Pas avoir la honte du tout, on peut pas tout écouter.
Mais voilà, le morceau, surtout le morceau Ain't Got No, I Got Life, qui est absolument extraordinaire. Et j'ai téléchargé complètement illégalement l'album de MGMT. Ouais. Bon, ils l'ont mis en écoute intégrale sur leur site, donc voilà.
Ouais, ouais.
Et en fait, je dois t'avouer que j'aime beaucoup certains morceaux. Mm-hmm. Déjà, j'aime bien le fait qu'ils aient fait l'inverse du premier, quoi. Parce que vraiment, il y a aucun tube dedans, quoi. Tu vois, même celui qu'ils veulent présenter comme le tube, c'est un truc, un morceau à tiroir avec, tu vois, plein de parties différentes. Donc, c'est pas du tout un tube radio. Et après, il y a d'autres morceaux, voilà, super calmes et super planants, qui sont voilà, à l'opposé de ce qu'ils avaient fait sur le premier. Et je trouve que c'est une bonne et qui sont toujours inspirés, en fait. C'est ça, surtout, un peu l'important.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais on va continuer avec une petite pause musicale. Extrait de la compil What It Is du Rare Groove avec C-Train et le titre Flutesing. Voilà, à l'instant c'était un peu plus, funky.
Ouais.
Ça t'a plu ?
Ouais, carrément. Ouais.
Alors dans cette émission, nous avons bien sûr le cocktail du mois. Ce mois-ci, c'est le Why Not, pourquoi pas. Ne demandez pas pourquoi, ça s'appelle comme ça. C'est à base de gin, si vous aimez le gin. Donc tout se prépare au shaker avec un verre Hurricane. Je sais pas si tu vois ce que tu connais, un cocktail culture cocktail.
Dis-moi,
non, pas trop. Le Hurricane, c'est plutôt un verre haut, évasé, arrondi, on va dire ça.
D'accord.
Et qui part un peu en tulipe en haut.
Ouais.
Voilà. Et donc tout ça, vous mettez tous les ingrédients que je vais vous dire dans le shaker, vous remuez. 200 centilitres de gin, 200 centilitres de passoa. La passoa, c'est un alcool de fruit de la passion. C'est une invention française. 10 centilitres de jus d'orange et 11 centilitres de jus de banane. Vous remuez tout avec des glaçons dans un shaker, vous servez, vous décorez avec ce que vous voulez, des ananas, des bigarots, voilà. Mais c'est vraiment super bon. Et ça se boit autant en début de dîner, à l'apéro, après le repas, enfin n'importe où.
En milieu d'après-midi.
Les pique-niques, voilà, vous voulez, à Radio Grenouille. Non, je rigole. Enfin, pourquoi pas, on pourrait se faire des vrais cocktails apéro.
Ça serait bien de...
Je sais, tout le monde me le dit, tout le monde me réclame, je sais. Enfin, bien sûr, tout ça à boire avec modération. Et puis un jour, peut-être que je viendrai avec tout... mon mini bar.
Tous les cocktails dont on a entendu parler.
Ouais, on fera à la fin de l'année, ouais, je ferai une compilation de tous les cocktails et on boira ça avec tous les invités, toute la radio, tout le monde. Voilà. L'actu dont on n'a pas parlé, c'est un collectif. Enfin, je dis collectif, mais plutôt des amis. Les amis de la pop à Marseille qui se retrouvent autour de...
Des soirées pop-up.
Voilà.
Voilà, c'est à la Dame Noire tous les samedis, de 18h30 à 23h.
Ouais.
En fait, c'est des apéros pop.
Ouais.
On passe donc de la musique pop, folk, exclusivement.
Mais c'est quoi? C'est festif?
Non, c'est plus pour l'apéro, tu vois, pour accompagner le.
Ouais.
Plus qu'avec une liste iTunes qui tourne, tu vois.
Donc plutôt pop qui navigue à travers le temps, c'est-à-dire autant
Oui, moi je pense autant des trucs de Lee Hazlewood, des Nancy Sinatra, que Golf Rap, ou même des musiques de films, ou après ça finit. Parce que quand même à 23h, il commence à y avoir du monde, donc ça finit avec Mina Juggernaut.
Ah oui, donc électropop plus.
Ouais, voilà, ça finit un peu plus électro, quoi. Ouais. Et donc on fait ça avec Florence, Canadas, Relatifian, Mathieu au Tiger Mountain et moi.
Bon, bah c'est bien tout ça.
Voilà, on fait une espèce de roulement là tous les samedis.
Et c'est bien, il faut vous faire vivre la pop à Marseille.
Absolument.
Hein, on s'est connus un peu comme ça d'ailleurs tous les deux. Hein,
oui.
À l'époque où j'organisais des soirées pop, j'organise toujours des soirées, mais c'est une soirée 100% pop.
100% pop.
Et voilà, donc ça c'est bien. Bah merci Mathieu, hein, on arrive sur la fin de cette émission. On va
merci
finir
à
avec
toi,
un
Monsieur
morceau.
Clouseau.
Mais avec plaisir, c'est un honneur de vous recevoir, mon cher, depuis le temps que j'avais envie. Et puis vu la belle actu que vous avez avec Kit Francescoli, franchement, voilà, on est fiers d'être Marseillais aussi.
Bah ouais,
grâce à Kit Francescoli.
On représente.
Et voilà, donc merci. On va finir très rapidement avec un morceau d'un classique revisité au Moog. À bientôt.